Et chaque jour, du lundi au vendredi, de 10h à 11h sur France Culture, les nouveaux chemins de la connaissance. Avec vous, Raphaël Antoven, bonjour.
Bonjour Emmanuel, bonjour à tous et bienvenue sur les nouveaux chemins. Hey, you know what? Diffusés donc tous les jours de 10h à 11h, les nouveaux chemins sont réalisés cette semaine par François Connac, avec Bruno Nievdanski à la technique, et préparés comme tous les jours par Geneviève Méric, Mathilde Unger, François Salmeron, Géraldine Mosna-Savoie et Adèle Van Rett. Adèle qui à 10h50 parlera de perfectionnisme moral avec Élise Domenac. Suite et milieu, ce mercredi, d'une semaine sur l'amour dans les nouveaux chemins de la connaissance. Après Platon et Alan Bloom, avant Stendhal et Marivaux, c'est Pascal dont nous allons parler aujourd'hui, le génial et désopilant Pascal, dont les pensées délivrent peut-être, à les lire de près, le secret d'un amour véritable. Et c'est une joie, un honneur, mieux, un plaisir d'accueillir aujourd'hui Pierre Magnard pour nous parler de Pascal. Pierre Magnard qui, au dire de ses élèves, est un merveilleux professeur, un merveilleux lecteur de Pascal et à qui l'on doit, entre autres, un indispensable vocabulaire de Pascal paru chez Ellipse, ainsi que La clé du chiffre, Pascal, c'est la 5e édition, aux éditions de la Table Ronde.
Qu'est-ce que le moi ? Un homme qui se met à la fenêtre pour voir les passants. Si je passe par là, puis-je dire qu'il s'est mis là pour me voir ? Non, car il ne pense pas à moi en particulier. Mais celui qui aime quelqu'un à cause de sa beauté, l'aime-t-il ? Non, car la petite vérole qui tuera la beauté sans tuer la personne fera qu'il ne l'aimera plus. Et si on m'aime pour mon jugement, pour ma mémoire, m'aime-t-on moi ? Non, car je puis perdre ces qualités sans me perdre moi-même. Où est donc ce « moi » s'il n'est ni dans le corps ni dans l'âme ? Et comment aimer le corps ou l'âme, sinon pour ses qualités qui ne sont point ce qui fait le « moi » puisqu'elles sont périssables ? Car aimerait-on la substance de l'âme d'une personne abstraitement et quelques qualités qui y fussent ? Cela ne se peut et serait injuste. On n'aime donc jamais personne, mais seulement des qualités. Qu'on ne se moque donc plus de ceux qui se font honorer pour des charges et des offices, car on n'aime personne que pour des qualités empruntées.
Combien j'ai connu d'inconnus, toutes de roses dévêtues. Combien de ces fleurs qu'on effleure et qui s'en trouvent puis se meurent. Que de larmes et de colliers au pied de mon lit ont roulé. Que de comédies, que d'ennuis pour de si frêles pierreries. Amour sans amour, amour sans amour, l'amour sans amour et sans visage. Amour sans amour, amour sans amour. Sans illusion, sans orage. Amour de collège, comment t'es ?
Bonjour Pierre Magnard.
Bonjour,
bonjour.
Raphaël.
Bonjour et bienvenue. Bienvenue de nouveau sur les nouveaux chemins de la connaissance. On vous avait déjà accueilli pour parler de Montaigne. C'est Montaigne d'ailleurs à qui vous consacrez les cahiers d'histoire de la philosophie. Enfin, vous avez fait le Montaigne des cahiers d'histoire de la philosophie. Peut-être on en reparlera tout à l'heure. C'est de Pascal qu'on va parler aujourd'hui dans cette semaine sur l'amour. Et on a commencé par un texte archi-connu de Pascal. C'est le paragraphe 323 de l'édition Brunschvicg, 688 de l'édition La Fuma. Parler de Pascal, c'est aussi donner quelques chiffres de temps en temps à nos auditeurs. Qu'est-ce que le moi, donc, se demande Pascal, dans un texte qui, par ailleurs, est une référence peut-être à Descartes, un homme à sa fenêtre. Dans ce texte, Pascal dit une chose à la fois passionnante et contradictoire, à savoir que on n'aime jamais que des qualités, et pourtant, Pierre Magnard, aucune de ces qualités ne permet d'expliquer le sentiment amoureux.
Tout tient à la relation que Pascal établit dans ce texte entre qualité et substance. Certes, le mot qualité a ici son acception aristotélicienne. C'est la seconde des grandes catégories, substance, qualité, quantité. Et on serait amené à penser qu'il y ait une relation essentielle entre les qualités et la substance. Or, la critique de Pascal ici consiste à délier qualité et substance, à tel point que la substance n'apparaît plus, au fond, que comme un attributaire dépourvu de propriété.
Oui, c'est le paradoxe. Par exemple, je ne sais pas moi, chez Rousseau, dans la cinquième rêverie, cinquième promenade, il se laisse aller au pur plaisir d'exister, mais c'est un plaisir d'exister qui en lui-même ne concerne aucune des choses existantes, au fond, comme si l'existence était séparée des choses qui existent. Il y a ici, chez Pascal, une séparation entre la substance et tout ce qu'on peut accoler à la substance et dont on pense que ça lui est indissociable.
Exactement. Et c'est cela qui va donner tout à fait sa signification à cette critique de l'amour qui est branchée sur cette critique du moi. Car n'oublions pas que qualité a, au grand siècle, une autre acception. Quand on dit une dame de qualité, quand on dit un homme de qualité, et qualité se distingue, je ne dirais pas s'oppose, de condition. L'homme de condition, c'est l'homme de condition nobiliaire. L'homme de qualité, c'est celui qui a prévalu par ses seuls mérites. On peut être homme de qualité sans être un homme de condition. Pensez à celui que Louis XIV honorera de ses largesses, le fameux Bontemps, ce qui était son premier valet de chambre, homme de toute petite naissance, qui sera, selon le mot même du grand roi, l'homme de qualité. Ce qui veut dire que la qualité n'est pas forcément attachée à la condition. Or, la qualité ici est intéressante parce que dans cette critique de l'amour, il apparaît que on n'aime pas quelqu'un pour lui-même, mais précisément pour des qualités. Et que lorsque l'on s'avise de situer cette considération ou cette critique sur le théâtre du monde, dans la vie de cour, on s'aperçoit que la critique se redouble d'une remise en cause d'un amour qui serait purement et simplement attentif à la qualité des personnes à laquelle il s'adresse.
De façon très prosaïque, Pierre Magnard, est-ce qu'on a le droit, sans faire déchoir hein, cette conversation qui part sur un registre, sur des cimes philosophiques, est-ce que de façon très prosaïque, on peut comparer ce que dit Pascal au fait finalement familier, selon lequel, quand on dit pourquoi on aime quelqu'un, c'est bien qu'il n'y a pas véritablement d'amour. Si l'on donne les raisons de l'amour qu'on porte à quelqu'un, c'est qu'il y a un doute sur cet amour-là. Je crois que c'est La Bruyère ou La Rochefoucauld qui dit « Vouloir ne plus aimer, c'est encore de l'amour. Vouloir aimer encore, ça ne l'est déjà plus. » Ce qui montre bien que quand l'amour se donne la béquille ou l'alibi des qualités objectives de la personne qu'on aime, le sentiment en lui-même est sujet à caution. Est-ce qu'on peut rabattre ce que dit Pascal sur cette expérience, qui est une expérience assez familière ? Au fond, quand on aime, on compte pas, et quand on aime, les mots nous manquent.
Mais Pascal le dit, d'ailleurs, quand il dit « le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas », et quand il ajoute « les raisons viennent toujours après ». Les raisons viennent toujours après, c'est-à-dire que les raisons viennent quand le cœur, en quelque sorte, en a besoin pour se convaincre qu'il doit encore aimer, pour nourrir son amour. Autrement dit, ces justifications sont toujours empruntées. Empruntées parce qu'elles n'ont pas une relation essentielle au sentiment lui-même.
Est-ce que ces raisons qui viennent toujours après, on peut les comprendre également comme « qui veut tuer son chien l'accuse de la rage », au fond comme l'idée que on se représente bien souvent la liberté comme le résultat d'une délibération qui débouche sur une décision, qui débouche sur un acte. Est-ce que finalement chez Pascal, il n'y a pas une inversion de cet ordre-là ? Est-ce qu'il n'y a pas d'abord un acte, puis ensuite une délibération qui viendrait rétroactivement ratifier ou justifier l'acte initial qu'on aurait accompli ?
La délibération est toujours ultérieure.
Vous le présentez comme une évidence, mais ça ne l'est pas, aux yeux et aux oreilles des gens qui nous écoutent, par exemple.
Mais c'est évident aux yeux des pascaliens. Pour Pascal, les raisons viennent toujours après, et c'est pourquoi les raisons sont controuvées. Elles sont toujours illusoires, elles sont toujours mensongères, parce qu'on commence à se mentir à soi-même quand on invoque des raisons. On invoque des raisons quand on n'est plus bien sûr de ce que l'on fait ou de ce qu'on a décidé. Et quand il s'agit de l'amour, quand on n'est plus bien sûr d'aimer.
C'est quand on a un doute qu'on se donne des raisons d'aimer.
Qu'on se donne des raisons d'aimer.
Mais que répondrez-vous à ceux qui diraient à Pascal ou qui feraient à Pascal l'objection suivante, c'est-à-dire l'objection selon laquelle l'amour... Bien sûr, alors Pascal délivre ou semble délivrer ici le secret d'un amour véritable. Mais dans le même temps, que répondez-vous à ceux qui disent que l'amour, il est impur, jaloux, inquiet, de mauvaise foi, que si on enlève de l'amour tout ce qu'il n'est pas vraiment, il n'en reste finalement plus rien. Si on enlève au rameau de Salzbourg tous les diamants dont on le recouvre, on en parlera demain en parlant de Stendhal, il ne reste finalement qu'un peu de bois sec. Si on enlève le désir, les regrets, le cynisme, la déception, la jalousie, la rage, l'adultère, la fidélité, le plaisir, la tendresse, je sais pas moi, la peur de mourir seul, l'impuissance, l'argent même, ou la beauté, si on enlève tout ça, il ne reste plus d'amour. Que répondez-vous à ceux qui objecteraient ceci à Pascal ?
Ben, je répondrai que Pascal a une idée tellement élevée de l'amour, tellement exigeante de l'amour, tellement absolue de l'amour, qu'il faut que cet amour soit sans raison. À partir du moment où on le raisonne, il n'est plus déjà l'amour.
Alors, de fait, pour Pascal, l'amour véritable est amour de Dieu. Hein. Il dit ceci, je crois que c'est la pensée 618 dans l'édition La Fuma, il dit « S'il y a un Dieu, il ne faut aimer que lui ». Et non les créatures passagères. Le raisonnement des impies dans la sagesse n'est fondé que sur ce qu'il n'y a point de Dieu. Cela posé, dit-il, jouissons donc des créatures. C'est le pis-aller. S'il y avait un Dieu à aimer, il n'aurait pas conclu cela, mais bien le contraire. Et c'est la conclusion des sages. Il y a un Dieu, ne jouissons donc pas des créatures. Au fond, est-ce que le travail de Pascal ne consiste pas à substituer à l'amour illusoire pour les créatures, l'amour véritable que le Créateur doit nous inspirer ?
Il s'agit en fait de retrouver le véritable amour de la créature. Car loin de Pascal, la pensée que l'on ne doive aimer que Dieu, en dépit de quelques affirmations qu'on trouve sous sa plume, Dieu est au fond le plus court chemin vers l'autre. Et c'est parce que précisément la société a multiplié les itinéraires et les méandres à travers les cartes du tendre vers un objet amoureux que l'imaginaire n'a fait que construire, que Pascal veut en quelque sorte démystifier l'amour et montrer que jamais l'homme n'est plus vain que dans l'amour. Vous trouveriez cela au fragment 413, puisque vous m'autorisez à parler chiffres. Qui voudra connaître à plein la vanité de l'homme n'a qu'à considérer les causes et les effets de l'amour. Le propos est énorme, car en effet, s'il y a quelque chose qui doit en quelque sorte nous donner l'impression de vivre à notre avantage, de vivre sur le mode avantageux, c'est bien l'amour. Or, c'est sur ce point même que va s'effectuer la démystification de l'homme. Il n'est jamais plus vain que dans l'amour, il n'est jamais plus vain que dans le sentiment qu'il croit pouvoir mettre à son avantage. Ce qui, l'avantage, à savoir la conduite amoureuse, pour Pascal, est l'expression la plus haute de sa vanité.
Est-ce à dire que quand un homme suspend son amour à la possibilité ou au fait ou à l'exigence, à la demande tout simplement, d'être aimé en retour, c'est-à-dire quand il suspend le don de lui-même à la réciprocité, il n'est ni dans le don ni dans l'amour ?
Il n'est ni dans l'amour. Ce que Pascal veut faire apparaître en définitive, c'est que dans nos relations humaines, l'amour est le plus souvent un amour de comédie, et que cet amour est donc d'ores et déjà une imposture, et c'est à cet amour de comédie, à cet amour imposture, qu'il veut substituer un amour vrai. Et pour parvenir à cet amour vrai, il faut se demander « Qui suis-je, moi qui aime ? Et pourquoi est-ce que j'aime ? J'aime pour me trouver, ou me retrouver, ou m'inventer, à travers cette liaison amoureuse. Et c'est cette conception narcissique de l'amour où l'on se projette en l'autre pour s'y retrouver et où l'on ne construit l'objet aimé qu'en fonction de ses propres fantasmes pour pouvoir précisément créditer son moi de toutes les qualités qu'on voudrait lui donner, que précisément l'on conçoit l'amour.
Tous les hommes recherchent d'être heureux. Cela est sans exception, quelques différents moyens qu'ils y emploient, ils tendent tous à ce but. Ce qui fait que les uns vont à la guerre et que les autres n'y vont pas, et ce même désir qui est dans tous les deux accompagné de différentes vues. La volonté fait jamais la moindre démarche que vers cet objet. C'est le motif de toutes les actions, de tous les hommes, jusqu'à ceux qui vont se pendre. Et cependant, depuis un si grand nombre d'années, jamais personne sans la foi n'est arrivé à ce point où tous visent continuellement, tous se plaignent, princes, sujets, nobles, roturiers, vieux, jeunes, forts, faibles, savants, ignorants, saints, malades, de tout pays, de tous les temps, de tous âges et de toutes conditions. Une épreuve si longue, si continuelle et si uniforme devrait bien nous convaincre de notre impuissance d'arriver au bien par nos efforts. Mais l'exemple nous instruit peu. Il n'est jamais si parfaitement semblable qu'il n'y ait quelques délicates différences, et c'est de là que nous attendons que notre attente ne sera pas déçue en cette occasion comme en l'autre. Et ainsi, le présent ne nous satisfaisant jamais, l'expérience nous pipe, et de malheur en malheur, nous mène jusqu'à la mort qui en est un comble éternel. Qu'est-ce donc que nous crie cette avidité et cette impuissance, sinon qu'il y a eu autrefois dans l'homme un véritable bonheur, dont il ne lui reste maintenant que la marque et la trace toute vide, et qu'il essaye inutilement de remplir de tout ce qui l'environne, recherchant des choses absentes, le secours qu'il n'obtient pas des présentes, mais qui en sont toutes incapables, parce que ce gouffre infini ne peut être rempli que par un objet infini et immuable, c'est-à-dire que par Dieu même. Pierre Magnat, il y a chez Pascal l'intuition d'un souverain bien, qui est une intuition que Pascal partage avec d'autres philosophes, notamment Spinoza par exemple. L'intuition d'un souverain bien, est-ce qu'on peut qualifier le souverain bien qui doit nous inspirer cet amour véritable ou qui nous l'inspire peut-être et dont nous cherchons dans ces succès d'années existentielles l'équivalent, cherchons vainement l'équivalent, est-ce que ce souverain bien peut être défini comme ce dont l'obtention n'épuise pas le désir, Pierre Magnat ?
Quand Pascal traite du souverain bien, il nous montre, avec une sorte de joie maligne, quelles sont les définitions que les philosophes ou que les moralistes en ont pu donner à travers les siècles. Et c'est une rhapsodie de réalité de plus en plus dérisoire qui tiennent lieu de souverain bien aux hommes les uns après les autres. De telle sorte que il s'agit, là encore une fois, de dénoncer la vanité. La vanité de l'homme qui a construit son souverain bien en fonction précisément de ce vide qu'il essaie toujours de remplir. Or, admettre la vanité, c'est convenir de ce vide intérieur, de ce défaut intérieur qui ne pourrait être véritablement rempli que par l'amour. Or, est-ce que la comédie humaine, est-ce que le jeu de la société mondaine, est-ce que la poursuite de l'objet aimé à travers les itinéraires de la carte du tendre peuvent véritablement, en suivant Mademoiselle de Scudéry, qui est rigoureusement contemporaine de la rédaction des Pensées de Pascal, 1654-1656, la Clélie, vous voyez, est-ce que ces jeux amoureux sont capables de satisfaire autre chose que l'imagination? Alors, je répondrai que satisfaire l'imagination, c'est déjà absolument considérable. Pourquoi? Parce que nous vivons au plan de l'imagination. Et faute de pouvoir obtenir la plénitude du bonheur au plan de l'être, alors nous cherchons à vivre au plan du paraître. Et c'est précisément cette incessante reconstruction de nous-mêmes au plan du paraître qui nous amène à essayer de déplacer nos qualités ou nos vertus de plan de l'être au plan du paraître, préférant les jouer, préférant les mimer, même si on donne alors dans l'imposture, car exceller dans l'esprit des autres, obtenir une place dans l'imagination des autres, se faire remarquer de l'attention des autres, c'est en définitive plus urgent pour cet homme aux abois et qui éprouve son vide, que d'essayer de le combler car pour combler son véritable vide, il lui faudrait un objet infini.
Oui, mais monsieur, qui n'est pas conscient de la vanité des choses? Quel homme se divertissant n'est pas au fait de la vacuité de son activité? Quel mondain ignore qu'il se perd dans les mondanités? Tout le monde le sait, finalement. C'est même d'ailleurs la raison pour laquelle certains s'y adonnent avec d'autant plus de frénésie. Quel être qui consacrerait sa vie au paraître ne saurait pas qu'il est justement dans la surface des choses, dans l'apparence des choses et dans l'ignorance volontaire, c'est-à-dire le savoir malgré lui de la réalité et du vide qui le constitue. Ce que je veux dire, c'est pourquoi ne pas faire des fausses amours, des amours contingentes, de l'imposture de la vie quotidienne et des divertissements qu'elle nous propose ou qu'on recherche. Pourquoi ne pas faire de tout cela à la fois un commencement de connaissance, voire une façon d'inaugurer un chemin, d'entamer un chemin qui, ultimement, nous conduira à l'amour d'un bien véritable. C'est à Spinoza que je pense ici, encore une fois. Spinoza qui faisait des notions communes. D'abord, qui faisait de l'ignorance un début de connaissance, et des notions communes que nous formons, des petites joies qui ponctuent l'existence, la marque d'un chemin qui nous conduit vers la béatitude. Y a-t-il chez Pascal un déni du divertissement au profit de l'amour véritable? Est-ce qu'il les oppose en nature, ou est-ce qu'on peut, de divertissement en divertissement, en venir à la considération d'un amour véritable?
Il n'y a pas de déni du divertissement. Serait fou celui qui voudrait s'en passer totalement. Et jusque dans les circonstances...
Rappelons que Pascal lui-même ne s'en est pas toujours passé.
On ne peut pas. Et jusque dans les circonstances ultimes de la vie. Prenons l'exemple ultime. L'homme est au cachot. Il attend son arrêt. Que fait-il dans l'attente de cet arrêt, et qui sera vraisemblablement un arrêt de mort? Il joue au piquet. Est-ce que l'on dira que c'est l'attitude la plus folle? Non, c'est en définitive l'attitude la plus sage. C'est l'attitude la plus sage parce que c'est peut-être la seule façon qu'il a de retrouver le temps perdu, de rouvrir un espace qui s'est refermé sur la porte de la prison, d'imaginer une évasion, de calculer des chances, les chances de gagner la partie de piquet, qui symbolise les chances de gagner au plan de l'existence.
C'était la deuxième question que j'allais vous poser, Pierre Magnard. Comment se fait-il que Pascal, face de Dieu, justement, ou de la croyance en Dieu, puisqu'il renonce à toute possibilité de démontrer l'existence de Dieu, il a ceci de commun avec Kant, il n'y a pas de démonstration de l'existence de Dieu chez Pascal, en revanche, il dit que nous avons tout à gagner à croire en lui. Est-ce pascalien ou contradictoire que de subordonner plus... d'inviter, disons, le lecteur impie ou le lecteur indécis à croire en Dieu au motif qu'il a tout à gagner. Comment peut-on à la fois distinguer, au fond, les fausses amours d'un amour véritable et procéder et conduire à Dieu dans son apologétique par le biais d'un calcul, donc qui engage l'intérêt particulier d'un individu?
On retrouve exactement la comédie du monde. Et Pascal ne s'en départit jamais de cette comédie. Il ne s'en départit jamais. Il sera toujours un homme d'amour propre, en sachant précisément que l'amour propre, c'est ce retour de l'amour sur soi-même, cette façon de rapporter à soi tout ce qui nous advient. Et il le sait si bien que, au fond, loin de s'en départir tout à fait, il s'ingéniera à composer son amour propre avec celui des gens qui sont amenés à vivre avec lui. Composer son amour propre de telle sorte que cet amour propre soit aussi peu incommode qu'il se puisse à l'endroit de l'amour propre des autres. Il y a énormément, au fond, de réalisme chez celui qu'on pourrait prendre pour un idéaliste absolu. Beaucoup de réalisme dans la façon dont il conçoit sa morale quotidienne. Loin de vouloir que l'amour-propre soit tout à fait évacué, il sait que c'est sur ce plan-là qu'il va rencontrer ses convives, les gens de sa fratrie, les gens de sa famille, les gens de son parti, mais aussi les gens auxquels il vient en aide, tous les pauvres qu'il reçoit dans sa maison. Il les rencontre au plan de l'amour-propre. Il ne va pas leur demander de faire abnégation de ce retour sur soi, qui leur est si important.
Donc il n'y a pas de normativité chez Pascal. Il n'y a qu'une connaissance fine de la nature humaine. Certes, l'amour propre nous met face à l'alternative d'être anéanti ou malheureux, hein, c'est lui qui le dit, mais pour autant, nous ne vivons pas sans amour propre. On retrouve ce que vous disiez tout à l'heure, Pierre Magnard, d'un amour... vous avez dit Dieu est le plus court chemin d'un être à un autre, le plus court chemin qui nous conduit vers l'autre. Et si l'amour propre nous détourne de Dieu, c'est précisément parce que l'amour propre, c'est aussi parce que l'amour propre nous détourne de l'autre qui n'existe plus sous le biais de l'amour propre ou sous l'œil de l'amour propre que sous l'angle des soit des qualités qui sont les siennes et qui viendraient justifier, faussement justifier un amour, soit sous l'angle du besoin qu'on en a, et donc non pas dans son altérité, mais dans l'utilisation qu'on peut en faire.
Ce qu'il s'agit, c'est de rendre cet amour-propre aussi peu incommode. Autrement dit, il y a ici une sorte de compromis, puisqu'il admet qu'il va rencontrer ses convives d'amour-propre à amour-propre. Il admet donc l'amour-propre de l'autre, et il va avec son propre amour-propre en faisant en sorte que celui-ci soit aussi peu incommode que possible. L'amour-propre, dit de lui sa sœur, l'amour-propre des autres, n'était pas incommodé par le sien et on aurait dit même qu'il n'en avait point, ne parlant jamais de lui ni de rien par rapport à lui. Mais précisément, c'est parce qu'il a su accommoder son amour-propre à l'amour-propre des autres.
Il dit quand même ceci, « J'aime la pauvreté, parce qu'il l'a aimé. Il, c'est Dieu. J'aime les biens parce qu'il me donne le moyen d'en assister les misérables. Je garde fidélité à tout le monde. Je ne rends point le mal à ceux qui m'en font, mais je leur souhaite une condition pareille à la mienne, où l'on ne reçoit point de mal ni de bien de la part des hommes. J'essaie d'être juste, véritable, sincère et fidèle à tous les hommes, et j'ai une tendresse de cœur pour ceux à qui Dieu m'a uni plus étroitement. Et soit que je sois seul ou à la vue des hommes, j'ai en toutes mes actions la vue de Dieu, qui les doit juger, et à qui je les ai toutes consacrées. Voilà quels sont mes sentiments. Et je bénis tous les jours de ma vie mon Rédempteur, qui les a mis en moi, et qui, d'un homme plein de faiblesse, de misère, de concupiscence, d'orgueil et d'ambition, a fait un homme exempt de tous ses maux par la force de la grâce, à laquelle toute la gloire en est due, n'ayant de moi que la misère et l'erreur. » Alors certes, Pascal ne s'attribue pas le mérite d'avoir trouvé tout seul le chemin qui l'éloigne de la misère, de la concupiscence, de l'orgueil et de l'ambition. Il ne s'attribue pas à lui ce mérite. Il dit « c'est la grâce qui a fait ça ». Mais enfin, il se flatte quand même d'être celui qui n'a pas d'amour propre, Pierre Magnard.
J'aime beaucoup l'expression « tendresse de cœur ».
Oui.
Et je m'inscris en faux contre ceux qui le présenteraient comme inhumain, dans la mesure où il aurait banni tous les sentiments humains. Or, vous venez de lire ce texte que l'on doit à Gilberte, qui le rappelle dans sa vie de son frère. Gilberte, rapportant les dernières années de son frère, les 5 dernières années, avec beaucoup d'attention, précise justement cette humanité qui veut qu'il ait toujours gardé cette tendresse de cœur et cherché dans sa relation à autrui à ménager l'amour propre de l'autre en composant son propre amour propre avec celui de son interlocuteur. Et cela doit nous donner le sens même de cette pauvreté dont vous parlez. J'aime la pauvreté parce qu'il l'a aimé. Il, c'est évidemment Jésus-Christ. Mais qu'est-ce à dire ? Gilberte fait remarquer qu'il ne laisse pas d'être le plus grand des mathématiciens de son temps, un excellent physicien, qu'il reste expert en sciences humaines, comme nous dirions aujourd'hui, qu'il s'est frotté de théologie et que de philosophie, il en a suffisamment pour n'avoir de points à rendre à personne. Eh bien, cet homme-là est riche à sa manière. Et cette richesse, il s'agit de la faire passer. Il ne s'agit pas de s'en départir et de l'abandonner au seuil de l'entretien. Il s'agit de le faire admettre. C'est-à-dire que rien dans toutes ses richesses, dans toutes ses excellences, ne doit être tel que cela apparaisse.
C'est quand même un paradoxe extraordinaire, Pierre Magnard, que le philosophe du vide, de la vacuité du moi soit également celui qui nous permette de penser la générosité comme un effet de la surabondance. On va rester sur ces thématiques-là qui sont difficiles. Je voudrais qu'on entende tout de suite un texte d'Apollinaire choisi par Mathilde Unger et Géraldine Mosna-Savoie, extrait d'Alcool, dans lequel le poète décrit les qualités sensibles d'une femme. Sa robe, sa tunique, son décolleté, ses parures, sa coiffure, son bandeau, ses souliers, ses épaules, ses bras, ses visages, ses yeux, ses lèvres. Ces qualités inspirent l'amour au poète et néanmoins, c'est ça qui est étonnant, c'est que malgré cette liste quasi exhaustive, cette femme demeure énigmatique, comme si son moi était introuvable. Écoutez.
La dame avait une robe en ottoman violine et sa tunique brodée d'or était composée de deux panneaux s'attachant sur l'épaule. Les yeux dansants comme des anges, elle riait. Elle avait un visage aux couleurs de France, les yeux bleus, les dents blanches et les lèvres très rouges. Elle avait un visage aux couleurs de France. Elle était décolletée en rond et coiffée à la Récamier avec de beaux bras nus. N'entendra-t-on jamais sonner minuit ? La dame, en robe d'ottoman violine et en tunique brodée d'or, décolletée en rond, promenait ses boucles, son bandeau d'or et traînait ses petits souliers à boucles. Elle était si belle que tu n'aurais pas osé l'aimer. J'aimais les femmes atroces dans les quartiers énormes où naissaient chaque jour quelques êtres nouveaux. Le fer était leur sang, la flamme, leur cerveau. J'aimais le peuple habile des machines. Le luxe et la beauté ne sont que son écume. Cette femme était si belle qu'elle me faisait peur.
Pierre Magnard est l'invité des Nouveaux Chemins de la Connaissance. Ce mercredi, Pierre Magnard, à qui l'on doit un vocabulaire de Pascal, le Montaigne dans la collection des cahiers d'histoire de la philosophie, et surtout, Pascal, la clé du chiffre, c'est la 5e édition, aux éditions de la Table Ronde. Pierre Magnard, je vous ai interrompu pour dire qui vous étiez à ceux de nos auditeurs qui nous rejoignaient maintenant. Vous vouliez parler et repartir sur ce poème d'Apollinaire.
Sur la façon dont toutes ces qualités, pour reprendre le mot qui fut au début de notre entretien, vont composer la figure fascinante de la femme aimée. Pascal aurait quelque chose à nous dire là-dessus. Tout à l'heure, je disais qu'on avait trop mis l'accent sur l'abnégation, sur la dénéantise du moi, sur cet anéantissement auquel il aurait tendu progressivement pour n'être plus plein que de Dieu. Or, il ne faut pas oublier qu'il y a cette conception de l'amour qui s'adresse pas forcément à quelqu'un qui serait dépourvu de tout, enfin, mais quelqu'un qui serait capable de composer toutes les perfections. Et là, je voudrais, sans que ce soit sur le mode du paradoxe, montrer que si la pauvreté est digne de notre amour, la richesse peut l'être, à une condition, c'est que chez le riche, aucune qualité ne l'emporte sur les autres, qu'aucune excellence ne se manifeste ou ne veuille prévaloir, comme si elles étaient fondues en une seule, et en cette confusion, ne laisse rien apparaître.
Est-ce à dire que la richesse n'est pas moins vide que la pauvreté et qu'au fond, ça ne change rien à la nature de l'amour ?
Ça veut dire que la richesse est pleine quand elle ne laisse rien apparaître, égale à la pauvreté, semblable à la pauvreté. Et celui que Pascal appelle l'honnête homme, l'homme universel, c'est précisément celui qui ne se prévaut d'aucune supériorité, qui ne fait acte d'aucune spécialité, qui ne montre aucune excellence. Ce dont Pascal a horreur, c'est de ce qu'on appellerait aujourd'hui le cuistre, et de ce qu'on appelait au temps de Proust le snob, c'est-à-dire celui qui se signale par un trait plutôt que par un autre. Or, quand tous les traits sont à ce point fondus qu'aucun ne laisse apparaître quoi que ce soit, que rien ne se signale, alors la richesse est semblable à la pauvreté. Et l'on a là ce que Pascal appelle l'homme universel. De plein pied avec tous, avec le plus riche comme avec le plus pauvre, puisque précisément c'est cette égalité parfaite qui fait l'universalité.
C'est l'homme que sa richesse n'appauvrit pas.
Que sa richesse n'appauvrit pas, précisément parce qu'elle ne le met pas au-dessus du lot, elle ne le signale pas à l'attention, elle n'attire pas les regards, elle ne suscite pas la convoitise. Il a su intégrer toutes les perfections. Et c'est cela précisément que décrit Gilberte dans son portrait de son frère dans ses 5 dernières années. Il n'a renoncé à aucune de ses excellences, mais il les a si bien fondues les unes dans les autres qu'aucune n'apparaît pour elle-même.
Et qu'en est-il alors, Pierre Magnard, de la tripartition que Pascal opère, en suivant d'ailleurs l'ordre augustinien, désir de jouir, de savoir et de dominer, des trois concupiscences, au fond, chez Pascal, qui relèvent de l'amour de la créature et qu'il distingue de la charité, c'est-à-dire, au fond, l'amour du créateur. Dans quelle mesure est-ce en empruntant le chemin de la concupiscence, que l'on peut en venir à la charité, chez Pascal?
Je crois qu'il ne faut pas hésiter à rappeler une expression qui, à l'époque, fit fureur, l'expression de sainte concupiscence, pour désigner l'amour de Dieu.
Qui emploie cette expression?
Elle est utilisée par
Jansénius. On ne la trouve pas chez Pascal?
Non, par Jansénius, dans le fameux Augustinus. Et elle devient un thème de débat, de discussion à Port-Royal, la sainte concupiscence. Or, il m'est toujours apparu que Pascal était un adepte de la sainte concupiscence.
Est-ce parce qu'il a été concupiscent avant d'être charitable, comme Augustin par exemple, qui décrit son parcours de cette manière, ou est-ce parce que les deux ne sont pas séparables?
Parce que les deux ne sont pas séparables. Sans doute, il a été concupiscent avant d'être charitable, mais les deux ne sont pas séparables. Et sainte concupiscence, c'est pour nous dire que tout ce qu'il y a de feu ou d'ardeur dans la concupiscence doit être tourné en amour de Dieu. Mais c'est de l'augustinisme. Car au fond, le pionnier de la sainte concupiscence, c'est bien Augustin, qui aime Dieu d'un cœur charnel et non pas d'un cœur à ce point dépouillé de tout, qu'il aurait dû passer par le comble de la sèse pour pouvoir aimer Dieu.
Qu'est-ce que Pascal dirait de la dernière proposition de l'éthique de Spinoza, Pierre Magnard, qui dit « La béatitude n'est pas la récompense de la vertu, mais la vertu même, et ce n'est pas parce que nous contrarions les appétits lubriques que nous jouissons d'elle, mais c'est au contraire parce que nous jouissons d'elle que nous pouvons contrarier les appétits lubriques. » Comme si l'abjuration de la concupiscence n'était pas la condition nécessaire et suffisante à la béatitude, mais au contraire l'accession à la béatitude, être de plein pied dans la béatitude, permettait tout simplement de remettre la concupiscence à sa place.
Là, vous avez entièrement raison. Il est évident
c'est Spinoza qui le dit.
Ce n'est pas la sèse qui va nous conduire à l'amour de Dieu. C'est l'amour de Dieu qui constituera la seule sèse possible. Il y a une expression de Pascal qu'il emprunte également à Jansénius, ce qu'il appelle la crucifixion du cœur, signifie que le cœur doit être soumis à sacrifice. Il doit être circoncis, pour reprendre le mot qu'il aimera utiliser. Et de même que le corps est circoncis dans la circoncision, de la même façon, le cœur est circoncis par l'intervention de la grâce. Mais la circoncision du cœur ne laisse pas que ce cœur reste un cœur de chair. Et c'est de ce cœur de chair que nous aimons Dieu.
I'm through with love. I'll never fall again. Said adieu to love. Don't ever call again, for I must have you or no one. And so I'm through with love. I've locked my heart, I'll keep my feelings there. I have stocked my heart with icy frigid air, and I mean
to care for no one, because I'm through with love.
Pierre Magnard est l'invité des Nouveaux Chemins de la Connaissance. Pierre Magnard qui vient nous parler de Pascal, dont il parle mieux que personne. Je vous recommande notamment, d'ailleurs, c'est facile et c'est très utile, Le vocabulaire de Pascal par Pierre Magnard chez Ellipse. Pierre Magnard, comment Pascal permettrait de comprendre, là encore sans rabattre des problématiques si nobles, à des réalités si triviales, encore que je ne suis pas sûr que les réalités soient triviales et que les problématiques soient nobles, mais comment Pascal permettrait de comprendre une femme qui, par déception amoureuse, par chagrin d'amour, décide qu'elle en finit avec l'amour, justement? Que Pascal, qu'est-ce que la lecture des pensées dirait à cette personne?
Quelqu'un qui, par chagrin d'amour, renoncerait complètement à l'amour.
I'm through with love. J'en ai marre. Il ne m'aime pas, j'en ai fini avec l'amour.
On s'est beaucoup interrogé sur ce qu'avait pu être la vie amoureuse de Pascal lui-même. Qui il avait rencontré? Par quel regard aurait pu croiser le sien? Sur quel regard de femme aurait-il pu porter son propre regard? Et il est très évident qu'il dut y avoir, à un moment donné, un début d'idylle entre Blaise Pascal et Charlotte de Rohanais. Cela se passait au château d'Oiron, Poitou, où Artus de Rohanais, qui était un duc et pair de France et un des familiers de Pascal, avait invité son ami, en même temps que le chevalier de Méret et Damien Miton.
Et qui étaient les interlocuteurs de Pascal.
Les interlocuteurs les plus fréquents et qui étaient deux libertins. Et il est très évident qu'il y eut un compagnonnage, en tout bien tout honneur bien sûr, avec Charlotte. On a même une correspondance entre Pascal et Charlotte qui porte uniquement sur le moment où Charlotte, se tournant vers la religion, demande à Pascal de l'exhorter pour vivre mieux ce passage à la religion. Mais on a le sentiment que tout cela est fait d'amours humaines qui ne sauraient entièrement être passés par profits et pertes. Et on ne sait d'autres rencontres qu'on pourrait qualifier d'amoureuses entre Pascal et quelque autre femme, car le grand amour de sa vie, finalement, ce sera sa sœur, Jacqueline. Et s'il éprouve à un moment donné un grand tourment, c'est lorsque Jacqueline entre à Port-Royal. Quand je vous dis qu'il reste très humain, Pascal, et que ses amours humaines ne le quittent jamais, voyons comment il réagit à l'entrée de sa sœur en religion. Il réagit par une colère qui n'a rien de sainte. Une colère qui
en elle-même peut surprendre, d'ailleurs.
Et qui peut surprendre. Il en est vraiment frappé, voire même blessé, meurtri. Et ceux qui ont essayé d'expliquer cela par des raisons de dos et de frustration d'une part du patrimoine perdent leur temps. Ce n'était absolument pas le souci de Pascal. C'est le fait qu'il lui semble perdre une partie de l'affection de Jacqueline quand Jacqueline entre au couvent.
S'il y a un Dieu, dit-il, il ne faut aimer que lui et non les créatures passagères. C'est quand même le même homme qui dit ça. Hein. Donc tout ce qui nous incite à nous attacher aux créatures est mauvais, puisque cela nous empêche de servir Dieu si nous le connaissons ou de le chercher si nous l'ignorons. Or nous sommes pleins de concupiscence, donc nous sommes pleins de mal, donc nous devons nous haïr nous-mêmes, et tout ce qui nous excite a une autre attache qu'à Dieu. Comment l'homme que vous décrivez, Pierre Magnard, peut-il écrire ceci? Ou plus exactement, est-ce que Pascal n'écrit pas ceci précisément parce qu'il sent en lui tout ce que vous venez de raconter?
C'est par dénégation.
C'est par dénégation.
C'est par dénégation. Il ne sent que trop ce penchant, et c'est pourquoi il en rajoute, si je puis dire. il lui faut absolument mettre l'accent sur cet indispensable dépouillement.
Ça permet de penser que tout philosophe normatif, d'ailleurs, est un philosophe qui, au fond, se méfie de lui-même et qui cherche à s'imposer à lui une règle qu'il n'est pas sûr de pouvoir suivre.
Absolument. De telle sorte qu'il est toujours très difficile de transposer une expérience humaine, une expérience amoureuse, une expérience spirituelle en un discours conceptuel et de traduire précisément ces dénégations en notions. Car en effet, est-ce à dire que il faille réduire à rien ce « moi » dont nous parlions au commencement et considérer qu'il n'est rien. Est-ce qu'il faut pousser la dénéantise, comme disait Montaigne, jusqu'à considérer qu'il n'est au fond qu'un vide ? C'est là que, justement, le passage au concept est trompeur. Pascal met l'accent sur la 16, sur le néant de la créature, que parce que précisément il lui faut à tout instant revenir sur ces puissances de la concupiscence qui renaissent à tout instant en son cœur.
Qui voudra connaître à plein, je suis content de citer ce paragraphe d'ailleurs, puisqu'on en parle tant, c'est la pensée 413. Qui voudra connaître à plein la vanité de l'homme n'a qu'à considérer les causes et les effets de l'amour. La cause est un je ne sais quoi. Et les effets en sont effroyables. Ce je ne sais quoi, si peu de choses qu'on ne peut le reconnaître, remue toute la terre, les princes, les armées, le monde entier, et Pascal de conclure, le nez de Cléopâtre, s'il eût été court, le nez de Cléopâtre, s'il eût été plus court, toute la face de la terre aurait changé. On arrive presque au terme de cette conversation, Pierre Magnard, et je ne voulais pas laisser passer l'occasion de vous demander ce que vous inspire le texte de Pascal, le plus connu, peut-être la phrase d'un philosophe la plus connue du monde.
Sur ce je ne sais quoi.
Oh, le je ne sais quoi est donc le nez de Cléopâtre. Métaphore du je ne sais quoi.
Mais c'est la métaphore du je ne sais quoi. Le « je ne sais quoi » est une expression qu'on retrouve plusieurs fois sous la plume de Pascal. On la retrouve aussi chez Nicole, lorsqu'il s'agit de définir le beau et la raison du sentiment esthétique. Et quelque chose d'absolument indicible, le « je ne sais quoi ». Mais ici, le « je ne sais quoi », bien que l'auteur le rapporte à Corneille, désigne l'infime, le dérisoire. L'insignifiant. Cet infime qui pourtant va avoir des causes immenses.
Petite cause, grands effets.
Exactement. C'est cette disproportion. Un rien peut produire des conséquences à l'échelle du monde entier. Le nid de Cléopâtre entraîna le bouleversement que vous savez du fait de l'inconduite d'Antoine et de cette rébellion des chef romain. On peut donc dire qu'il y a là une relation entre l'infime et l'immense. Mais du même coup, voyez la puissance de l'infime. L'infime est gros d'un monde. L'infime peut produire l'immense. Donc méfions-nous du rien. Méfions-nous du personne. Je cherche à qui s'adresse l'amour. Et je ne trouve personne. Je cherche qui je suis, moi qui aime, et je ne dis personne. Nemo. Rien. Nihil. Cette néantisation, précisément, toujours présente, elle ne doit pas nous leurrer. Car ce qui est insignifiant en apparence peut avoir des conséquences infinies.
In my solitude.
La voix sublime de Billie Holiday pour conclure en votre compagnie cette émission, Pierre Magnard. Billie Holiday, où la figure justement de cette solitude éperdue de l'homme assis entre deux infinis.
With Maurice.
Pascal, la clé du chiffre, c'est aux éditions de la Table Ronde. Le vocabulaire de Pascal, c'est aux éditions Ellipse. Et enfin, dans la collection, l'excellente collection, je dois dire, des cahiers d'histoire de la philosophie tenus par l'ami Maxence Caron, on vous doit, Pierre Magnard, avec Thierry Gontier, le Montaigne.
There's no one could be so sad with bloom everywhere.
On change de registre, encore que, on va passer de la perfection au perfectionnisme. Il est 10h50, on retrouve le journal des Nouveaux Chemins. Bonjour Adèle.
Bonjour Raphaël. Oui, pour les insatisfaits des théories morales, celles qui brandissent les méthodes à suivre en vue d'accéder au bien, ou au contraire, celles qui se font fort de réduire la morale à un calcul utilitariste, il existe une alternative. Bienvenue en terre du perfectionnisme moral. Bonjour Élise Domenac.
Bonjour Adèle.
Bonjour, vous êtes philosophe et une des rares spécialistes de Stanley Cavell en France. Et qui dit Stanley Cavell dit Emerson, ce philosophe américain du milieu du 19e siècle. Et qui dit Emerson dit perfectionnisme moral, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors, depuis quelques temps, on trouve aux éditions PUF un livre aussi réjouissant qu'indispensable puisqu'il rassemble des contributions de philosophes contemporains et des textes d'auteurs plus classiques qui permettent de se familiariser avec cette pensée morale qui est peu connue et que l'on nomme le perfectionnisme. Peu connu et pourtant, les caractéristiques du perfectionnisme se trouvent au cœur de la philosophie antique, puis d'Emerson, de Nietzsche, de Michel Foucault, de Pierre Hadot, pour ne citer que. Et je dis une pensée morale, car justement, le propre du perfectionnisme moral, Élise Domenac, en tout cas un des points essentiels, c'est que c'est plutôt que d'être une théorie, c'est plutôt une forme de pensée, de tonalité, qui est non normative et qui consiste à promouvoir la transformation de soi, donc le perfectionnement de soi, à travers notamment la recherche de l'expression, des mots justes pour décrire son expérience à l'échelle du privé comme à l'échelle du public. Élise Domenac.
Oui, ce que vous avez dit est extrêmement juste et riche, parce qu'il y a tous les éléments, en effet, du perfectionnisme, l'idée de quelque chose qui n'est pas une théorie morale, qui du coup va être minoritaire et traverser toute l'histoire de la philosophie à travers moins des... C'est une tradition qui n'a pas des précurseurs une généalogie très nette, comme ces deux grands concurrents, entre guillemets, la tradition déontologiste et puis la tradition utilitariste, qui ont des précurseurs clairs. C'est une tradition qui, finalement, naît avec la pensée morale et naît avec la philosophie antique. Ce que cet ouvrage montre très bien, vous l'avez dit, avec la contribution de Pierre Hadot, auquel l'ouvrage est dédié. Et puis, c'est une tradition qui court sur toute la tradition philosophique et qui a ceci de particulier. Et je crois que l'ouvrage le montre très bien dans sa variété d'interventions, des interventions sur la littérature, sur le cinéma. C'est une tradition de pensée morale qui se nourrit beaucoup de l'extérieur, des dehors et des frontières de la philosophie. Et donc ça, là, on peut être très reconnaissant à Sandra Logier qui a coordonné cet ouvrage et qui est la traductrice et l'introductrice de Stanley Cavell en France, d'avoir vraiment donné ça à disposition en montrant à quel point Cavell est celui par qui Stanley Cavell, philosophe américain, donc contemporain, qui est un commentateur de Wittgenstein et d'Austin, mais qui est aussi un grand penseur de la morale, qui a fait véritablement ce travail de réintroduction d'Emerson et de Thoreau, disons deux grands penseurs transcendantalistes américains, et c'est à partir d'eux que lui pense cette tradition, une cohérence de cette tradition perfectionniste. Dans un ouvrage dont on pourrait dire que c'est un peu le parent de ce livre qui est pour nous maintenant la somme en français de Sandra Logier sur le perfectionnisme. L'ouvrage américain, disons, qui serait l'équivalent, c'est le grand œuvre de Stanley Cavell assez récent, qui date de 2005, qui s'appelle Cities of Words, qui est cité de parole, qui reprend cette expression de Platon où se noue beaucoup le perfectionnisme comme lieu où on doit chacun d'entre nous poursuivre un perfectionnement de soi et en miroir œuvrer au perfectionnement de la société. Mais ça, c'est le grand œuvre de Stanley Cavell qui paraîtra en français dans l'année 2011.
Et je crois que c'est vous qui l'avez
c'était
traduit, n'est-ce pas ?
C'était co-traduit, voilà. On était une équipe de... c'est un pavé.
Alors, vous avez insisté tout à l'heure, effectivement, sur l'importance du recours, quand on est dans le perfectionnisme moral, quand on réfléchit au perfectionnisme moral, au recours, en tant que philosophe, à d'autres disciplines, dont la littérature et le cinéma. Et ce livre le montre très bien dans la troisième partie. On voit qu'il y a des contributions qui sont d'ordre plutôt littéraire. Il y a également un article dont vous êtes l'auteur sur Arnaud Desplechin.
Et en fait, la raison pour laquelle c'est si important les arts pour penser le perfectionnisme, vous l'avez dit vous-même, c'est parce que le perfectionnisme pose la question, et c'est ça vraiment la force de cette tradition morale, la question de l'expression de soi. Et,
alors qu'est-ce que ça veut dire exactement?
Alors justement, c'est très important parce qu'en fait, ça a donné lieu à un malentendu crucial par rapport à Emerson, c'est qu'on a pensé que parce que Emerson promouvait en quelque sorte cette confiance en soi, le retour à soi en morale, c'était une énième fondation subjectiviste de la morale. Or, pas du tout. Il s'agissait pour Emerson de montrer que quand on a affaire à des questions morales, on a affaire à la question de comment je m'exprime moi-même, comment je me positionne moi-même face aux autres, et que cette question-là, en fait, loin d'être source de certitude et de dogme et de théorie, comme vous le disiez, elle est source d'inquiétude. Et c'est là où le scepticisme est crucial. Vous y reconnaissez aussi Cavell, sans doute. Et c'est que cette expression de soi, elle est surtout expression des opacités, des inquiétudes, des doutes que l'on a sur soi-même et de l'absence de transparence à soi.
Alors comment comprendre ce terme de perfectionnisme ? Est-ce qu'il signifie une quête vers une perfection idéale ? Et donc il montre que finalement le développement vers la perfection n'est jamais achevé ? Est-ce que c'est ça ? Est-ce que ça insiste sur la perfectibilité de l'homme ou c'est au contraire pour insister sur son imperfection ? Et son impossibilité d'atteindre cet idéal. Est-ce que c'est une quête vers cet idéal ou la reconnaissance que cet idéal est inaccessible ?
Alors en fait, c'est les deux. C'est là où on est au cœur de ce qui est compliqué et riche dans le perfectionnisme. On est aussi aux sources même du perfectionnisme, puisque dans le Timée, à la fin du Timée, Platon fait cette image très belle de l'âme qui doit, pour s'élever elle-même, tenter de ressembler à la partie la plus divine en elle. Donc c'est ça, ce perfectionnement, ça vient du Timée. Et en même temps, l'insatisfaction par rapport à soi, par rapport à notre société, est au cœur. Donc ça, c'est une manière de répondre à ce que vous disiez sur est-ce que le perfectionnisme, c'est une capacité à trouver de la perfection, trouver des justifications, trouver une satisfaction aussi. Réponse, sans doute non. Et c'est ce qui fait, aux yeux de Cavell, et c'est la richesse politique du perfectionnisme, que de se fonder sur une capacité à l'insatisfaction, une capacité à la critique de soi et de notre société, ce qui fait dire à Cavell que le perfectionnisme est nécessaire en démocratie, est nécessaire pour critiquer toutes les versions dégradées, les fausses versions de la démocratie.
Voilà, et ça, ce point est important puisqu'il montre bien que le perfectionnisme, c'est à la fois l'attention à sa propre expérience, mais c'est également le fondement d'une pensée démocratique. Il y a vraiment cette alliance entre le privé et le public qui est très, très, très intéressante et très importante pour le perfectionnisme. Alors, je rappelle le titre de ce livre. Ça s'appelle « La voie et la vertu, variété du perfectionnisme moral ». C'est donc sous la direction de Sandra Logier. On trouve ça au PUF. Et vraiment, allez-y, lisez-le. À la fois, si vous ne connaissez pas le perfectionnisme, c'est un très bon moyen de le découvrir. Si vous le connaissez, c'est un moyen de l'approfondir. C'est vraiment, vraiment passionnant. Donc, « La voie et la vertu », c'est le titre de ce recueil. Merci Élise Demenac d'être venue en parler.
C'est moi qui vous remercie.
C'est bien entendu, on finit la journée avec Kojève.
Et oui, un livre sur l'un des plus grands hegéliens français du XXe siècle et qui a eu une influence majeure sur la philosophie française d'après 1945. Le philosophe en question, c'est donc Alexandre Kojève, qui s'est fait connaître notamment à partir du séminaire qu'il a donné sur Hegel à l'école pratique des hautes études au cours des années 30. Séminaire qui a été recueilli par les soins de Raymond Queneau, et Raymond Queneau qui est à l'origine du surnom d'Alexandre Kojève, à savoir le philosophe du dimanche. Et c'est justement le nom qui a été donné à ce livre sur Alexandre Kojève, dont l'auteur est Marco Filoni, et qui propose ce portrait intellectuel et biographique du grand Kojève, où l'on comprend que l'universitaire devient philosophe du dimanche lorsqu'après la fin de la Seconde Guerre mondiale, il entre dans l'administration et passe les 20 années suivantes au sein de l'élite de la diplomatie mondiale et de la haute finance, poursuivant son activité philosophique de manière clandestine pendant les week-ends. Et c'est seulement après sa mort, en 1968, avec la publication de nombreux inédits, que le public pourra prendre la mesure de l'œuvre élaborée de la sorte dans l'ombre. C'est un livre qui est très réussi parce qu'il accorde une large place à la pensée de Kojève lui-même, y compris à sa pensée intime, issue de son journal, des dialogues qu'il a eus avec d'autres personnes, et permet à la fois de restituer la dimension humaine du philosophe tout en rendant sa pensée plus intelligible. Donc le livre s'appelle « Le philosophe du dimanche », « La vie et la pensée d'Alexandre Kojève » par Marc Filoni. Il est publié aux éditions Gallimard et il sort demain, jeudi 16 décembre.
Merci Adèle, merci à tous, à nos invités du jour, Pierre Magnard et Élise Domenac, c'est-à-dire Blaise Pascal et Ralph Waldo Emerson. On se retrouve sur Internet, vous attend le téléchargement de toutes les émissions de la semaine, l'écoute en ligne de toutes les émissions du mois, ainsi qu'une bibliographie aussi complète que possible. Une petite erreur tout à l'heure. Tiens, j'ai dit que le texte d'Apollinaire lu tout à l'heure était le choix de Mathilde Unger et Géraldine Mosna-Savoie. Eh bien non, c'était François Salmeron qui l'avait trouvé. François, que je remercie de cette trouvaille, donc. Et une erreur à venir, puisque j'annonce à tort votre venue, Élise Domnach, dans l'émission que vous entendrez demain. Ce qui, en fait, est l'expression de l'impatience et non de l'amnésie, puisque l'émission que vous entendrez demain, en fait, a été enregistrée hier. Demain, donc, c'est-à-dire hier, comprenne qui pourra, on continuera cette semaine sur l'amour en parlant de Stendhal en compagnie de Gérald Rano.